Bonjour à toutes et à tous. Êtes-vous persuadé que le Seigneur est avec nous ce matin? Hein? Oui, hein? L'Esprit de Dieu est véritablement partout. Pourquoi? Simplement parce que, sans nous concerter, une partie du thème de l'idée d'introduction de Jean-Lionel les rejoint aussi dans ce que je vous propose de partager. C'est vraiment une bénédiction de savoir que nous sommes conduits par notre Dieu. C'est l'époque des cadeaux. Et plutôt que d'ouvrir les paquets classiques, hein, hier on avait des ersatz de cadeaux, des boîtes vides, on nous a rappelé que ce n'était pas à emporter chez soi, mais juste pour la décoration. Donc plutôt que d'ouvrir des paquets, je vous propose ce matin de découvrir un cadeau immatériel. Une petite anecdote pour situer un peu le contexte. Un diplomate distingué visitant Toulon, fut invité à accorder sa grâce à l'un des galériens de son choix. Il y a 3 siècles, les criminels pouvaient s'y trouver entassés et contraints à ramer dans les pires conditions, parfois à perpétuité. Le diplomate parla donc avec eux. Chacun, à ce qu'il disait, se trouvait là à la suite d'une erreur judiciaire, d'une accusation calomnieuse, d'une méprise, d'une criante injustice. Ça doit nous rappeler quelque chose. Il en trouva un, cependant, qui lui dit « Je suis un criminel endurci, je mérite la mort. C'est à la seule grâce de Dieu que je dois d'être encore vivant. » « Misérable canaille, lui dit le diplomate, votre présence ici contamine tous ces braves et honnêtes gens. Vous ne resterez pas ici un seul jour de plus. » Se tournant vers son escorte, le sourire aux lèvres, il dit « Voici l'homme que je veux gracier. » Vous le voyez, on est dans la grâce, dans ce cadeau de Dieu. On a parlé ce matin du cadeau de Christ. Il y a tout un tas de petits paquets qui sont là, comme ça, répartis à droite, à gauche, et c'est une véritable merveille que de pouvoir les ouvrir. Pour vraiment se pencher sur un texte qui parle de cette grâce-là, je vous propose de regarder dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 1 à 10. Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Avant de nous lancer dans la lecture, quelques indications. Dans les Bibles, en général, il y a toujours un petit titre ou un petit sous-titre. Là, en l'occurrence, pour les Bibles second, en général, c'est le salut par grâce. Dans d'autres versions, notamment la Semeur de mémoire, c'est de la mort à la vie. Et nous devons, pour nous imprégner de ce que le Seigneur a à nous dire, nous devons poser quelques questions. Qu'est-ce que la grâce? Au bénéfice de qui coule-t-elle? Quels sont les éléments qui la constituent? D'où coule-t-elle? Quel est son but? Son objectif est pour la gloire de qui? Et enfin, ce sera le dernier point, quelles sont les conséquences, les applications pour nous tous les jours? Un petit rappel aussi sur le contexte. Paul commence l'épître aux Éphésiens par rappeler toutes les richesses, les bénédictions au bénéfice desquelles sont les croyants en Christ. Bien entendu, ces richesses sont à la gloire de Dieu. D'ailleurs, les expressions « en lui, célébrer sa gloire » reviennent comme un refrain pour renforcer la louange que le peuple élu, juif ou non-juif, peut faire monter vers le Père. Paul nous rappelle dans cette première partie que nous sommes élu, acheté, et que nous avons en abondance sagesse et intelligence, les versets 7 à 8 du chapitre 1. Puis la deuxième partie, comme une conséquence de cette description un peu de cet état, la deuxième partie, Paul la consacre de ce premier chapitre, Paul la consacre à rendre gloire à Dieu de ce qu'il a donné aux Éphésiens. Et il prie pour eux, pour que Dieu éclaire les yeux de leur cœur, versets 18 du chapitre 1 illumine le terme qui est repris. Lisons le passage, si vous le voulez bien. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrement selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que la grâce ? Ce sera le premier point. Définition encyclopédique, j'en ai retrouvé quatre. La première, faveur que l'on fait à quelqu'un sans y être obligé. Le deuxième, pardon, indulgence. Le troisième, remerciement, témoignage de reconnaissance. Et enfin, le dernier, et j'en profite, David n'est pas là, titre donné aux ducs et aux évêques en Grande-Bretagne. On les appelle grâce. Voilà pour la définition d'une encyclopédie, pour la définition biblique. Qu'en est-il ? Elle englobe beaucoup de choses. Elle englobe le pardon. Elle englobe le salut. Elle englobe la régénération, la repentance, l'amour de Dieu. Bonté, faveur imméritée, qui dépend de celui qui veut bien la donner. On l'a vu dans la petite histoire. Ce qui ressort dans toutes les définitions est l'adjectif immérité. Ce qui amène au deuxième point. Pour qui ? Pour qui ? On reprend les trois premiers versets du texte. Vous étiez morts, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul distingue ici deux catégories de personnes. Le vous du premier verset, pour les juifs, pour les non-juifs, pour les grecs, tous ceux qui ne sont pas du peuple élu. Paul s'adresse aux Éphésiens. Et donc ce premier verset est pour cette catégorie de personnes qui ne fréquentaient pas les synagogues, qui n'étaient pas du peuple élu. La deuxième population à qui s'adresse ce passage, c'est le « nous », a contrario, le « nous » du peuple élu. Il est renforcé par l'expression « nous tous aussi, nous étions de leur nombre ». Dans d'autres textes, dans la Bible, Paul précise qu'il n'y a pas de distinction entre les peuples réunis sous la même et triste bannière, pécheurs, rebelles à la mort, enfants de la colère. nous amassions sur nos têtes la colère de Dieu. Et Paul là insiste dans ce passage sur l'état de notre l'état que nous avions avant, mort spirituellement, quoique vivant, fils de la rébellion, convoitise de la chair, soumis à la volonté de la chair, enfant de la colère. C'est donc à tous ceux qui ont repoussé Dieu, qui l'ont mis loin de leur vie, à qui Paul s'adresse. Plus encore, l'expression « enfant de colère » indique que nous sommes de ce fait sous la justice de Dieu. Mais alors, de quoi est constituée la grâce ? D'où coule-t-elle ? Dans l'Épître aux Romains, Paul nous rappelle au chapitre 5, au verset 2, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Éloigné, loin, accomplissant les désirs de la chair, notre seule perspective, c'est la justice de Dieu. Dieu est donc un Dieu de justice qui réprime tout pécheur, non pas pour le perdre, mais pour l'amener à la repentance. C'est la conséquence qu'on peut comprendre de ces trois premiers versets. Et le verset 4 commence par un « mais ». Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, mais Dieu, ce « mais » là, a toute son importance. C'est un « mais » d'opposition. Comme ces réponses que nous entendons quelquefois. Tu vas bien ? Oui, je vais bien, mais j'ai un peu mal. Mais j'ai un peu mal au lobe de l'oreille. Ça va les affaires ? C'est oui, les affaires sont bonnes, mais il me manque un sou pour faire 100 francs. C'est un mais en vue d'une comparaison. Comparaison. La définition de ce mais, de cette locution-là, nous dit que ce qui se trouve après le « mais » remplace ce qui est devant le « mais ». De telle sorte que nous mémorisons uniquement la deuxième partie. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, en opposition à l'état dont nous étions avant, et depuis ce matin, nous n'avons eu de cesse que d'en parler. Dans la première partie, Paul parle de notre état avant notre conversion, mais Dieu voit, propose, accorde autre chose, miséricorde, grand amour. Par une simple locution dans son propos, Paul oppose l'amour à la colère, la vie à la mort. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il oppose donc le rejet, la haine que chaque individu peut avoir envers Dieu, et donc la mort, à la miséricorde, l'amour de Dieu pour ses créatures, et donc à la vie. La grâce, c'est donc la rencontre de la justice de Dieu d'un côté, et de son amour. Et cette rencontre-là, on l'a rappelé ce matin, se fait à la croix. Entendons ce que Dieu nous dit sous la plume de Paul dans l'Épître aux Romains, toujours au chapitre 5 et au verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Exactement ce qui nous est dit lorsque nous étions ennemis sous la colère de Dieu. Ennemis de Dieu dédiés à la justice, mais Dieu riche en miséricorde. L'exacte expression de son amour pour nous. Il a appliqué la justice et manifesté son amour en Jésus pour nous. le seul être vivant sur terre, sans défaut, fils de Dieu, qui a pris sur lui la justice de Dieu. Il s'est revêtu de nos péchés pour recevoir l'expression de la justice. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie en Christ. Cela change complètement la vie. Notre seule alternative après cette affirmation, c'est la louange et l'adoration. Et là, l'apôtre change dans son expression, ou tout du moins reprend le même pronom, ce même « nous ». Nous qui étions morts. Et ça devient un « nous » inclusif. Il regroupe tous les sauvés. Tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur couleur. Paul continue le développement de sa pensée et nous devons y avoir aussi une attention particulière. Il nous dit dans le texte, il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Autant dans la première partie de l'Épître, dans le premier chapitre, Paul nous dit en Christ, autant là on a l'impression, le sentiment par l'expression de Paul, que Dieu nous prend dans ses mains, lui-même. Il nous a ressuscités, il est venu nous prendre et il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir. Hein, on passe, je ne sais pas si vous pouvez avoir cette image, on passe instantanément dans ses mains d'un état de mort à un état assis dans les lieux célestes, vivant dans les lieux célestes. Il, ce Dieu créateur. Nous sommes directement à son contact, au contact du Père. Ce pronom « il » là a toute son importance pour nous dire qu'en fait, tout vient de Dieu. Spurgeon a écrit un livre « Tout par grâce » et qui décrit justement cet élément, cette façon que Dieu a de nous considérer. Ainsi donc, la grâce est issue de la rencontre, de la justice et de l'amour. Imaginons deux fleuves, hein, on est ici à Lyon, on a le Rhône d'un côté, la Saône, et le Rhône qui continue à descendre. Imaginons qu'un fleuve arrive comme ça, qu'il s'appelle justice, et qu'un autre de l'autre côté arrive et s'appelle amour. Et ils se rencontrent là. Le fleuve qui s'écoule, c'est la grâce. Et l'équilibre des deux est d'une importance capitale pour nous. S'il y avait juste le fleuve de justice qui s'écoulait, on aurait des situations impossibles. Le moindre manquement à la loi, la mort. Systématiquement, sans sentence. Aucun soin pour les circonstances atténuantes. Pire, nous n'aurions même pas droit à un avocat. Un Dieu autocratique. Je ne sais pas si quelques-uns connaissent ce film, Le Juge Dredd. C'est une projection d'une civilisation lointaine, où il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de procureurs, il n'y a plus de présidents de tribunaux, il y a juste un juge qui connaît la loi et qui est armé. C'est vraiment une projection lointaine. Et ce juge-là va débusquer les voyous, les malfaiteurs, leur récite même le texte qu'ils ont enfreint et engage la sentence. Pour ceux qui ont volé, directement en prison, melotte électronique, clac-clac, c'est bon. Pour ceux qui ont tué, la mort instantanée. Aucun amour, aucune compassion. A contrario, si le fleuve uniquement de l'amour s'écoulait, nous aurions un Dieu bonhomme, un Dieu indulgent, un Dieu du « c'est pas grave ». on le connaît. Il n'est pas méchant. Un Dieu un peu à l'image d'Élie le sacrificateur, qui refusa de rançonner ses enfants. Élie était sacrificateur du temps des juges. Et ces deux garnements étaient à l'entrée du temple et ils rançonnaient tous les Israélites qui voulaient venir apporter leur offrande, prendre les meilleurs morceaux dans la viande qui était apportée. C'est Dieu qui s'est chargé de punir Élie et ses enfants. Ce Dieu-là n'existe pas. Dieu tient l'équilibre parfait entre justice et amour, selon sa souveraineté. Il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Christ s'est couvert de nos péchés pour accomplir cette justice. Dans l'Épître aux Galates, nous pouvons lire « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il s'est rendu coupable à notre place, prêt à recevoir la sentence. » La résurrection de Jésus étant la démonstration de l'amour de Dieu. Lui qui n'était coupable ni par nature, ni par ses actes. Le mélange des dieux, justice et amour, s'est fait à la croix. La grâce coule de la croix. Et dans le texte, Paul nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tout vient de Dieu, c'est une évidence. Nous étions morts, donc incapables de quoi que ce soit, et il nous rappelle, et il nous a ramenés à la vie. Ce qui nous amène au quatrième point. Pour qui ? Pourquoi ? Les versets 9 et 10 nous disent « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je ne sais pas vous, mais par expérience, les morts ne peuvent absolument rien réaliser. Et nos esprits contaminés dans l'état premier dans lequel nous étions pourraient se dire « Oui, mais j'étais gentil. J'ai fait traverser la route à une personne âgée. J'ai aidé un ami dans ses soucis conjugaux. J'ai accepté de ne pas être payé par mon patron pour sauver l'entreprise. J'ai donné de mon argent, de mon temps pour ceci ou pour cela. » En fait, cela signifie que j'ai mérité que Dieu m'aime. Aucune perspective de ce côté-là, aucune. Jacques, l'apôtre, le précise, les œuvres sont la conséquence de la foi et non pas l'inverse. Dieu a créé les œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il a pourvu à tout. Jésus a accompli l'œuvre que le Père avait préparée. Nous lisons dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 17, cette déclaration de Christ, « J'ai accompli l'œuvre que tu m'avais demandé de faire. » Nous sommes invités, exhortés à accomplir les nôtres. Et c'est le dernier point et la conclusion. Quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Quelle œuvre devons-nous pratiquer? Peut-être que le Seigneur nous demande de... Je m'empresse de préciser avant de continuer que je me mets au rang de ce que je vais dire encore plus particulièrement que pour le reste. Peut-être que le Seigneur nous demande-t-il de visiter des personnes âgées, des frères, des sœurs malades, isolés. Peut-être le Seigneur nous demande-t-il de nous engager plus fidèlement pour enseigner les enfants à l'école du dimanche. Peut-être Le Seigneur nous demande-t-il de pratiquer avec joie le balai et la serpillière pour l'entretien des locaux? Peut-être nous demande-t-il de prendre en charge le transport de frères ou de sœurs tributaires des transports en commun pour venir aux réunions? De prêter mains et jambes pour la distribution de tracts? De participer de plusieurs manières à des œuvres telles que Teen Ranch ou le CDJ, soit comme participant au staff, soit comme serviteur, tout simplement, en cuisine? Peut-être nous demande-t-il d'aller dans les marchés, au contact de ceux qui ne connaissent pas cette bénédiction-là et cette grâce-là encore. Peut-être nous demande-t-il de prendre du temps pour participer à un service pour un culte en commun. Cette liste-là n'est pas exhaustive. Surtout pas. Elle peut être à tout moment augmentée parce que le Seigneur peut vous mettre sur le cœur, peut nous mettre sur le cœur. Elle n'est pas non plus pour chacun, autrement dit, chacun doit faire absolument ça. Quelques-uns sont peut-être plus amenés à être dans un staff, d'autres à être en cuisine, peu importe. Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur et pour les autres, Dieu ne restera jamais insensible. Il nous encourage, il nous encouragera sans cesse et nous accompagnera. Que notre Seigneur nous aide par sa présence à accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées par la richesse surabondante de sa grâce. Amen.